Europe 1, 11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien le bonjour les amis. Eh oui, nous sommes là encore avec nos clochettes et notre traîneau. C'est la dernière tablée de l'année. Et je peux vous dire que nous allons célébrer les plaisirs de la table jusqu'au bout. Voici mes bons vivants du jour. Elle a profité des fêtes pour choisir sa plume dans une belle volaille. C'est notre journaliste gastronomique du Journal du Dimanche, Charlotte Landron.
Bonjour Charlotte. Laurent, bonjour.
Il a mis de côté quelques bouteilles pour nous après le réveillon. Sec, demi-sec, moelleux, ce samedi, c'est blanc sur blanc avec Olivier Pouls.
Oui, bonjour les amis, je vous en ai gardé, c'est promis, mais pas que pour aujourd'hui, hein,
non,
pour les semaines à venir.
Hein, bonjour Olivier. Et nous partagerons un magnifique plateau de fruits de mer avec un bon vivant aventurier. Denis Brognard sera des nôtres. En route les amis. Alors, nous sommes le lendemain de Noël. Déjà, première question, comment ça va? Comment allez-vous? Mal aux cheveux? Pas mal aux cheveux?
Non, pas trop. Repu, mais raisonnable, donc prête à réattaquer, j'ai envie de dire.
C'est bien, eh bien je prends.
Oui, c'est vrai que c'est un marathon, il faut tenir le choc. Alors, écoutez, la première montée s'est bien passée, là on est sur le plateau, on garde le rythme, voilà. Et puis ben, on se prépare pour l'ascension ultime.
Exactement, et pour bien se préparer aussi, il faut manger correctement, sans oublier le plaisir, bien entendu, et c'est pour ça qu'on a plein d'idées de recettes à vous donner, ce sera notre dossier du jour. Alors, c'est la fin de l'année, on serait bien passé de 2020, on va pas se mentir. Malgré tout, les différents confinements, je trouve, ont eu la vertu cette année de remettre les circuits courts et la cuisine du quotidien au centre de la table. Alors je vous pose la question, et posez-vous là, à la maison ou en voiture, quel a été votre goût, non pas de la semaine, mais de l'année, votre goût de l'année, Charlotte?
Ah, de l'année, c'est vraiment au premier confinement, ces Français qui se sont retournés dans leur cuisine, bon gré mal gré, hein, par la force des choses,
disais, oui.
Qui ont retrouvé leur vieux livre de cuisine ou leur nouveau, je ne sais pas, mais en tout cas qui se sont replongés là-dedans. Et puis, passé la stupeur quand même du premier confinement, les chefs sont quand même venus à leur rescousse, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé. Les audiences ont explosé, et on les a accompagnés pour la cuisine du quotidien. Des petites recettes saines et bonnes tous les jours. Et franchement, ça, c'était quand même une joie de voir les gens
se réapproprier
leurs recettes et les cuisines. Voilà.
Et c'était plaisant, je suis bien d'accord. Et gardons ce réflexe,
malgré
justement.
Tout, hein.
Olivier.
Oui, c'est vrai que c'est l'une des vertus, si on devait en trouver quelques-unes quand même à cette crise. Ben moi, c'est plutôt. Moi, je vois le verre plutôt à moitié vide, là, pour le coup. Les restaurants me manquent. Et je ne suis pas allé au restaurant, là, depuis quelques semaines. J'y suis très peu allé cette année. Et voilà, c'est une année presque blanche en termes de table et de rencontres avec ses chefs. Et même si on les voit, comme vous le dites, hein, sur les réseaux sociaux, moi j'ai envie d'aller m'asseoir au restaurant, mettre les pieds sous la table, comme on dit. Vous vous souvenez comment on fait encore? On demande la carte, on choisit.
On paye avant ou on paye après? Je ne sais plus.
Mais parfois, moi je la demande chez moi.
Hein. J'ai hâte que ça revienne.
On soutient évidemment et on pense à nos restaurateurs.
Le goût de l'année?
Alors, mon goût de l'année, eh bien, c'est mon goût déconfiné. Parce que moi, je suis resté à Paris pendant tout le confinement. On a continuer l'émission justement à la table des bons vivants pour vous accompagner, chers auditeurs, au quotidien. Olivier, vous étiez dans votre Bourgogne, Charlotte à distance, Yves Candebordes aussi. Eh bien, mon goût de l'année, c'est celui de la fraise, de mon potager que j'ai retrouvé après le déconfinement, quand je suis allé chez moi dans mon potager en région. La première fraise, je vous jure, je l'ai cueillie, il faisait beau.
Au mois de mai.
Oui, exactement, c'était les toutes premières, début juin, et elles étaient bonnes, et c'était un délice, voilà. Donc,
peut-être devenu cueilleur.
Cueilleur, absolument. Allez, pas de trêve des confiseurs, justement, pour les fruits et légumes. La saison suit son cours. Quels sont vos chouchous entre deux fêtes? Eh bien, Frédéric Michel, notre correspondant dans le Sud-Est, a glissé son micro dans vos cabas. Pour faire l'inventaire, rendez-vous au marché de Draguignan, dans le Var, et il y a beaucoup de végétal.
Je vais prendre des patates, ça c'est sûr, parce que je vais manger une raclette, et sûrement des endives. Là, je vais chercher des clémentines, corse.
Légumes d'hiver, regardez, moi j'en ai acheté. C'est bon, poireaux, carottes et céleri pour faire la soupe.
Madame, la soupe est bonne?
La soupe est excellente.
C'est la soupe de maman.
C'est ça qu'il faut manger, ça réchauffe en plus. Moi je mets des navets, des pois chiches,
carottes,
voilà. Il y a tout ce qu'il faut là. Il y a des paysans qu'il faut, il y a la fraîcheur, il y a la qualité surtout.
de l'huile d'olive direct producteur, donc c'est très appréciable de faire travailler les petits commerçants. J'ai pris aussi des blettes, des épinards, des courges. C'est un peu un défi parce que j'essaie de cuisiner qu'avec des choses de saison. Des fois, il faut innover. Quand on a beaucoup de navets, il faut inventer plusieurs recettes, donc c'est chouette.
Vous savez déjà ce que vous allez en faire ?
Des gratins, des soupes, les manger comme ça aussi, c'est très bon.
Là, j'ai des choux-fleurs pour mon aioli. Et oui, parce que j'ai un restaurant, je suis juste là. Les produits de saison, vous avez les petits navets qui sont super, on peut faire glacer. Et je pense que Laurent, il nous les ferait bien. Tellement de choses à faire
ah,
et à respecter des produits locaux.
Ah, quelle joie de vous entendre sur nos marchés. Je peux vous dire que confiné, déconfiné, quoi qu'il arrive, on continuera à vous rendre visite pour ouvrir chaque émission sur nos marchés partout en France. Et un grand merci à nos producteurs locaux, évidemment, et à nos correspondants aussi, j'en reparlerai tout à l'heure.
Et vive les accents.
Et vive les accents, et vive la nature qui reste généreuse encore en cette saison et qui nous permet de faire le plein de végétal. C'est vrai que 2020, Charlotte, a eu le mérite, on le disait tout à l'heure, de renouer le lien entre les consommateurs qui vont faire leurs courses en conscience, et puis les producteurs.
Oui, c'est ça, si on veut toujours voir le verre à moitié plein, les Français ont été plus de 63% à se fournir essentiellement chez des producteurs locaux cette année, par rapport par exemple à 2014, où les sondages étaient plutôt autour de 41%. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, si on veut voir les choses ainsi. Et souvent, il faut savoir que les Français, ils achètent des produits alimentaires locaux, c'est-à-dire cultivé, élevé, fabriqué à proximité du domicile. C'est ça la vraie définition.
Gardons ces bonnes habitudes, le local, évidemment, quand on peut, le chocolat et le fruit de la passion, on va continuer à l'acheter où on veut. J-5 avant le réveillon du 31, ne bougez pas, on revient avec des œufs de truite et des œufs de saumon bien élevés. Tout est bon dans le poisson, vous entendrez. A tout de suite.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Attention les amis, un réveillon peut en cacher un autre. À peine Noël déjà passé qu'il faut penser au réveillon du 31. Une soirée en petit comité, évidemment, Covid oblige. Le plateau de fruits de mer, quoi qu'il en coûte, est un essentiel pour beaucoup d'entre nous. Et ce samedi, on vous invite à faire entrer dans la danse les œufs de poisson. Et ce n'est pas seulement pour faire joli, on a de beaux œufs de poisson made in France dans notre pays. Et Olivier, c'est bien plus qu'une tendance, c'est un savoir-faire.
Ah oui, et depuis très longtemps, vous savez qu'on fait du caviar français depuis plus de 100 ans. Alors, on le cultive, entre guillemets, c'est de l'aquaculture depuis une quarantaine d'années. Mais il y a aussi les œufs de truite, les œufs de saumon, par exemple, sauvage dans l'Adour. On pourrait parler de fermes d'élevage également en Normandie,
oui,
pour ces œufs de
saumon. Dans la rade de Cherbourg.
Exactement. Et donc, pour tous ces œufs, il y a aujourd'hui des techniques et un savoir-faire dont on est fier.
Les œufs de mulet du côté de Martigues aussi. Pour faire la fameuse poutargue. Donc, c'est vrai que, n'oublions pas qu'on est fort en œufs de poisson. Stéphane Place, notre correspondant dans le Sud-Ouest, s'est rendu justement à la ferme de Siron, dans Lot-et-Garonne, avec l'éleveur de truite Olivier Lataillade. Alors, c'est quoi un œuf de truite bien élevé ? Je vous pose la question et on y répond.
Les pontes ont lieu en décembre et janvier. Nous, on a un élevage raisonné qui permet aux poissons de nager, en fait, d'avoir de l'espace pour faire du muscle, pour faire de la chair. Et on les nourrit à la main 3 fois par jour, de façon modérée, pour qu'elles aient une croissance naturelle, le plus naturelle possible.
Les œufs, vous disiez, il faut presser sur le ventre du poisson, c'est ça ? C'est comme ça que ça se passe ?
C'est ça, on extrait le poisson. Alors, le poisson est quand même endormi, parce que la truite est un poisson très vif. On l'endort légèrement, pour pouvoir ensuite presser sur le ventre pour extraire les œufs.
Vous avez tout à l'heure abordé une question importante. Dès qu'on parle de poisson, c'est l'alimentation. On se souvient d'un certain nombre de façons de faire qui ont beaucoup choqué les consommateurs, les farines, etc.
Chez nous, c'est fait avec des végétaux. Il y a des protéines végétales, bien sûr, mais il y a également des protéines animales, puisque la truite est carnivore, donc elle a besoin de protéines animales, et chez nous, c'est du poisson. Il n'y a pas d'autres produits, tels que des antibiotiques, ce qui a été reproché à certains élevages, notamment de saumon, mais, qui risqueraient de se retrouver dans la chair du poisson, voire dans les œufs, alors, ce qui n'est évidemment pas bon pour la santé. L'œuf doit être relativement ferme, donc des jolies petites billes dans le bocal. Et après, cet œuf-là va légèrement craquer sous les dents et libérer tous ses arômes. S'il est déjà écrasé ou tout mou, on n'aura pas cette sensation en bouche.
Bravo Olivier Lataillade, c'est clair, net et précis à la ferme de Siron dans le Lot-et-Garonne. Et merci à Stéphane Place, notre correspondant. Et j'en profite pour remercier tous nos correspondants locaux qui nous rapportent le meilleur de nos régions. Stéphane Place, on vient de l'entendre, Frédéric Michel dans le Sud-Est, Jean-Luc Boujon, Nathalie Chevance, Benjamin Peter, Arthur Mbaché, Lionel Gougelot et François Coulon. Bonne fête à tous, chers camarades, et on est ravis de vous avoir autour de cette table tous les samedis. Alors, on vient d'entendre des œufs de truite, Charlotte. Oui. Il y a aussi des œufs de saumon. On en parlait Olivier, avec Olivier.
C'est pas le même goût, hein. C'est très très différent.
Ouais, c'est vrai, c'est
puisque la truite n'étant pas un poisson marin, c'est pas iodé. Hein. C'est très particulier.
Ouais. Il y a des œufs de limpe aussi. Qu'est-ce qu'on choisit alors pour le réveillon ?
Il y a plein de billes différentes à se mettre sous la dent,
ouais,
Laurent. Si on commence du plus accessible au plus prestigieux, il y a les œufs de limpe. On commence avec eux. Bon, ils sont une belle couleur noire, mais je vous conseille pas trop parce que c'est quand même très très, très, voire trop salé,
oui,
hein, faut le savoir.
Ça, c'est vrai.
Les œufs de truite, c'est un bon intermédiaire, hein, en entrée de prix, 8 euros le pot de 80 grammes, par exemple.
Bien élevé, comme on vient d'entendre,
voilà,
en
exactement.
Plus.
Moi, j'aime beaucoup, quand même, plus chic, plus généreux, les œufs de saumon, un peu plus gros, qui éclatent sous la dent.
J'adore.
Voilà, ça, j'adore.
Qu'est-ce que
ça.
C'est bon, ça.
La texture.
Sur un œuf à la coque.
C'est fantastique.
Sur des œufs à la coque, ça, c'est délicieux, un œuf de poisson.
Ou sur des petites pommes de terre tiède.
Oh là là, voilà. C'est magnifique, ça fait un dîner, un déjeuner, ça.
Exactement. Et puis, évidemment, le plus prestigieux, le caviar, hein, et sa finesse en bouche, plus ou moins gras aussi, avec 69 euros quand même les 30 grammes chez Denevic, donc voilà, moins accessible, mais on peut se faire
le
un petit plaisir quand même.
Caviar Denevic en Dordogne, qui est un caviar français,
ouais,
absolument.
Voilà.
Il y a beaucoup de caviar français aujourd'hui de qualité, on trouve de l'ossiètre d'ailleurs, qu'on ne trouvait pas avant, donc on monte en gamme. Franchement, une fois de temps en temps, goûter ce produit.
Et dans le monde, Olivier, nous ne sommes pas les seuls à en déguster pendant les fêtes, hein, des œufs de poisson.
Non, puisque les Japonais, par exemple, eux sont dingues d'œufs de hareng, ou alors plus compliqué à attraper, à mon avis, les œufs de poisson volant, hein, pour le jour de l'an.
J'en ai goûté, ça c'est délicieux, ça.
Oui, c'est très bon.
Ah oui, ça croque un peu.
Ouais, c'est une texture beaucoup plus ferme. Et puis les Suédois, eux, dans la région côtière de Kalix, à l'extrême nord de la mer Baltique, eux, ils mangent des œufs d'ablette. C'est l'équivalent suédois un peu du caviar d'esturgeon. C'est aussi rare et cher. C'est très frais, c'est très délicat et c'est magnifiquement iodé.
Eh bien, merci les poissons pour tous ces beaux œufs. On est entre les fêtes, là, une purée d'avocat toute simple avec des œufs de saumon, des œufs de truite par-dessus. C'est délicieux aussi. On vous mettra évidemment toutes ces références sur europe1.fr. C'est la même adresse, hein, pour vous abonner au podcast.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Voici venue l'heure de répondre à vos questions. Elle est là, en chair et en os, et je pense que Noël s'est bien passé. Bonjour Fanny Rascle.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Fanny. Les enfants étaient gâtés ?
Ils ont été très gâtés. Le Père Noël a été sympa cette
sympa,
année.
Ah, sympa ça. Alors sur la page Facebook des Bons Vivants, sur le 3921, on pose les questions et vous les recueillez, chère Fanny.
Chez nous, il n'y a pas de trêve des confiseurs. Nous sommes là si vous avez besoin d'un conseil pour faire vos courses ou d'une astuce en cuisine. Et on commence avec ce message laissé sur notre répondeur.
Hello Laurent, hello les bons vivants, c'est Aude, j'habite à Paris. Je cherche une entrée alternative au foie gras et au saumon qui sont un peu chers car comme tout le monde, je suis ruinée après les cadeaux de Noël. Donc si vous avez une belle proposition clinquante, je suis intéressée. Merci, à bientôt, ciao.
Du chic et pas cher, et on va trouver Aude. Charlotte, vous avez une idée ?
Ah ben, je vous recommande une recette d'Anethor issue de son petit livre des recettes qui tranchent aux éditions de L'Épure. C'est un carpaccio, mais de chou-fleur, donc c'est veggie, vous les faites à la mandoline comme ça, vous rajoutez justement des œufs de saumon pour vous faire plaisir.
Ou de truite, encore
ou
moins cher.
Ou de truite aussi. Des zestes de cédra, un peu d'aneth, un peu d'huile d'olive et des pignons torréfiés. C'est pas très très compliqué, c'est très joli, ça claque.
Ça claque.
Vous me demandez que ça claque,
mais ça claque. Ah, ça a bien claqué ça. Oui.
Voilà.
Oui,
et joli. C'est pas cher, c'est abordable.
Une idée, Olivier ?
Bah, moi, je vous pique une recette que je refais de temps en temps d'ailleurs. C'est l'espèce de pain surprise de boudin blanc.
Ah oui.
Ouais, avec une baguette qu'on évide, on fait un petit chutney de pommes en laissant compoter tranquillement avec un peu d'oignon, un petit peu d'acide. Avec du vinaigre et puis un boudin blanc, on met le chutney à l'intérieur,
on l'enfile comme un hot dog.
Voilà, comme un hot dog, on met le boudin blanc à l'intérieur. Et puis, ben, on place ça au four tranquillement.
Vous avez bien fait le geste. C'est très bien.
Et après, on découpe des rondelles comme ça. Voilà.
Voilà.
Et vous avez le croustillant du pain autour et puis le boudin dedans. Et
ça
tout,
doit être joli
chutney,
en plus.
C'est sympa.
Fanny.
Une autre question posée cette fois sur le groupe Facebook des Bons Vivants, c'est Bastien qui se demande quand est-ce qu'on doit cuire les aliments à couvert et quand est-ce qu'il faut les laisser mijoter un peu à l'air libre.
Ah, bah, à l'air libre, oui, c'est pour rissoler, pour saisir. Quoi,
c'est ça. Bah, tout dépend si on veut ou non conserver de l'humidité parce que le fait de couvrir la casserole, bah on a compris, la vapeur d'eau n'arrive pas à s'échapper, donc on va monter en température, mais on va aussi garder l'humidité. Si on enlève le couvercle, l'humidité s'en va et donc on va assécher davantage la préparation. Parfois, il faut un peu jouer des deux d'ailleurs. Bon, la viande à couvert, c'est compliqué parce qu'elle a tendance à bouillir.
À bouillir, oui.
C'est pas terrible. Mais par contre, les plats en sauce, on peut entrouvrir la casserole pour laisser s'échapper.
L'entre-deux est pas mal. C'est la saison des choux de Bruxelles. Moi, je les fais colorer avec un petit peu de beurre, juste de l'eau rapidement dessus et je couvre un peu. Et 10 minutes à peine hein, de cuisson et j'ai des choux de Bruxelles coupés en deux, al dente, avec un petit goût de beurre et qui n'ont pas cramé. Quoi.
Et on les assaisonne comment ces choux de Bruxelles ?
Ah ben, un petit piment d'Espelette, hein, on ne se refait pas, ou alors du sel, du poivre, ce que vous voulez.
Et ben voilà. Vous laissez vos questions sur le répondeur de l'émission au 39 21 50 centimes par minute ou sur Facebook. Le groupe s'appelle Les Bons Vivants d'Europe 1 et vous êtes plus de 23 000 à l'intérieur.
Ça grimpe. Exactement. Merci Fanny. Et ne bougez pas, on revient avec votre journal de la cuisine spécial rétrospective de 2020. A tout de suite.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Que faut-il manger un lendemain de soirée arrosée ? Que manger entre deux fêtes pour conjuguer plaisir et légèreté ? On en parle dans un instant avec mes bons vivants Charlotte Langrand et Olivier Pouls. Mais juste avant, voici les trois nouvelles gastronomiques qui ont marqué l'année selon vous, Fanny Rascle. On commence ce journal avec un coup de projecteur sur ces jeunes chefs qui se sont révélés cette année.
Oui, 2020 a été une année très difficile pour les restaurateurs, anus horribilis même, et ce n'est pas terminé. Alors pour positiver, on se projette dans les années à venir et on se rassure en regardant la sélection des jeunes talents proposés par le Goemio édition 2021. 6 chefs prometteurs dont 5 femmes dans la sélection. Enfin. Dans une profession qui a été secouée aussi par des révélations sur les violences sexuelles ces derniers mois, c'est le signal fort. Alors dès que ce sera possible, on ira manger chez Sophie Régnier à Vannes ou chez Laetitia Viss à Marseille.
Ah, deux belles références. Pour bien manger, pour mieux manger, on s'arrête un instant sur une idée née cette année, ce sont les chèques alimentaires.
Oui, c'est une proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Vous savez, c'est cette assemblée de citoyens qui a travaillé pendant des mois pour réfléchir à des mesures concrètes pour le climat et elle vient d'être validée par Emmanuel Macron alors qu'on en avait assez peu parlé jusqu'à présent au milieu de toutes les autres propositions. Ces chèques alimentaires, ils permettent d'acheter spécifiquement des produits bio, dans des coopératives, des AMAP ou auprès des producteurs. L'idée, c'est de les distribuer aux foyers les plus modestes. Il reste maintenant à passer de la bonne idée à la mise en pratique.
Mieux manger pour tous. Et puis on termine avec la reconnaissance enfin accordée à l'un de nos plats préférés, Fanny.
J'ai nommé le couscous du Maghreb qui vient de faire son entrée au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Le couscous, c'est des saveurs aussi, un savoir-faire, des gestes, un cérémonial et le sens du partage qui va avec. Ses origines sont berbères, mais c'est avant tout une tradition qui se transmet de génération en génération dans plusieurs pays. D'ailleurs, le dossier de candidature a été envoyé par l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie, tous ensemble, démarche unique en son genre. Et pour mettre tout le monde d'accord, l'UNESCO en conclut que le meilleur couscous est toujours, je cite le communiqué officiel, celui de ma mère.
Ben oui, voilà, comme ça on ne prend pas de risque et c'est
évidemment
vrai. Merci Fanny pour ce beau journal, merci de nous accompagner et d'être là. On embrasse Marion Sauveur qui nous écoute, hein, qui a toujours
on lui fait de grosses bises.
Cette petite blessure due à la cuisine et on l'embrasse très fort et on vous retrouve la semaine prochaine, chère Fanny. Ce sera l'année prochaine d'ailleurs.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Alors, l'année a été riche en millefeuilles. Je ne parle pas des pâtisseries, hein, les copains, mais des livres de cuisine, fidèles compagnons de nombreux auditeurs, je le sais. Alors tiens, s'il ne devait en rester qu'un cette année, ce serait lequel pour vous ? Posez-vous la question à la maison. Jean-Luc Arblat, Dodeline de la tête, il en a lu plusieurs, notre réalisateur.
Ah, c'est vrai.
Et vous, Charlotte ?
Et ben c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a eu vraiment des beaux ouvrages cette année. J'aurais pu vous parler du couscous pour tous de Nordine Labiat, du végétal de William Ledeuil ou de Terrine, etc., des Véraux. Mais j'ai envie de vous parler d'un petit livre qui s'appelle Retour de pêche de Tanguy Thomassin et Adèle Grunberger. Ils sont à la tête de l'Oyster Club à Dinan. Ils ont fait un grand livre, un beau livre, qui s'inspire d'une pêche respectueuse, éthique, durable, avec 80 recettes simples, conviviales, avec l'histoire, les techniques, les critères pour choisir les poissons, leur saison, des techniques pour lever un filet, pour ouvrir des coquilles Saint-Jacques. Et puis, plusieurs recettes pour chaque poisson ou chaque fruit de mer. Des couteaux en persillade ou gratiné, un carpaccio ou un tartare de Saint-Jacques, etc.
On prend tout ça. On prend vraiment. Le titre.
Retour de pêche, c'est chez les éditions First.
Merci Charlotte. Et vous, Olivier ?
Bah écoutez, puisque vous me posez la question, quel est le livre qui m'a marqué ? Bien, c'est la semaine dernière, nous recevions Jean-François Piège à cette table qui m'a remis son livre « L'histoire de la grande cuisine française ». Je trouve ce livre absolument incroyable. C'est une somme de travail. Vous parliez de 1000 feuilles, il y a plus de 1000 pages, plus de 1000 recettes. Une compilation mise à jour de toutes les grandes recettes qui font la richesse incroyable de notre gastronomie française. Franchement, ce livre est absolument indispensable. Je le félicite encore pour ce boulot. Bah, mais vous en avez amené
un
autre.
Je vous suis un peu, moi aussi, c'est un livre de chef. C'est le grand livre de la naturalité. C'est Alain Ducasse qui a écrit ce livre avec sa bande. Alors, la naturalité, ça peut paraître un petit peu pompeux comme ça quand on entend le titre, mais c'est tout simplement revenir à l'essentiel, à nos produits locaux, on en parlait justement, et c'est vrai que depuis de nombreuses années, Alain Ducasse mène le combat pour ce mouvement. Haricots coco, échalotes brûlées, gamberoni de San Remo, petit engrain de l'Espignan, cèpe à la braise, des accords qu'il a mis en place effectivement avec Romain Médère, qui est son chef justement, qui a mis en place lui aussi cette belle naturalité.
Et Jessica Préalpato pour les desserts.
C'est ce que j'allais dire, des desserts qui sont presque un peu déstructurés et qui sont des desserts faits avec des produits bruts comme ça, que j'aime beaucoup parce qu'on va à l'essentiel du goût. Et c'est vrai qu'on en revient au rôle essentiel que jouent les chefs en fait dans les mouvements qui animent notre façon de cuisiner et de manger au quotidien. Voilà, c'est le grand livre de la naturalité d'Alain Ducasse chez Ducasse Éditions. Allez, ne bougez pas, on vous mettra les références sur europe1.fr. On revient juste après une petite pause. L'esprit de Noël est toujours dans ce studio, la preuve. On se prépare justement à attaquer le réveillon du 31, cette fois-ci, en petit comité, bien sûr. Alors, comment cuisiner et manger entre les fêtes? Comment se remettre le lendemain d'une soirée arrosée? On vous dit tout. Déjà, Charlotte Olivier, comment vous vous sentez en ce lendemain de Noël, franchement, Charlotte?
Franchement, ça va, j'ai quand même sauté la case petit déjeuner, hein, pour être honnête, histoire de chouchouter un peu mon foie et lui laisser un petit peu de temps pour se remettre, mais ça va très bien.
Un petit jeûne intermittent, comme on dit.
Exactement, hein, c'est
voilà.
Ça.
Les 16 heures entre les deux repas.
J'y suis presque.
Oui, non, moi, je garde les réacteurs avec une puissance raisonnable, voyez-vous, pour ne pas avoir de trou d'air.
Exactement. Alors, c'est vrai que les lendemains de fête peuvent être synonymes de lendemains de soirée un peu trop alcoolisés, même pour les chefs. Et c'est le sujet, justement, de Cuite, le livre de Victoire Loup, un livre avec 60 recettes pour lendemain difficile. Elle est avec nous au téléphone. Bonjour Victoire Loup.
Bonjour.
Bonjour Victoire.
Dans quelle région vous êtes?
Je suis à Cannes chez mes parents pour les fêtes.
Quelle chance. Alors vous êtes journaliste et consultante dans le domaine de la cuisine. Vous avez publié donc Cuite, des recettes pour lendemain de gueule de bois. Comment vous est venue l'idée? C'est du vécu?
Pas personnellement, parce que j'ai tendance à pas souvent boire à excès. Je crois que ma dernière cuite remonte il y a un an.
Ah, oui.
Mais mes éditeurs avaient eu l'idée parce qu'ils traînent avec beaucoup de chefs qui boivent un peu trop, et ils m'ont approché pour qu'on écrive ce livre ensemble.
Alors, on n'est pas là pour faire l'apologie de l'alcoolisme, bien entendu, mais c'est vrai que c'est un peu de circonstance. 60 chefs vous ont donné leurs recettes fétiches pour lendemain difficile, comme vous dites. Alors, ça va de la soupe au pistou, au burger, en passant par des pâtes carbonara. C'était facile de leur faire jouer le jeu, justement, de « dis-moi ce que tu manges quand tu as une soirée arrosée ».
Une fois qu'ils avaient accepté, ils ont vraiment joué le jeu et ont raconté des anecdotes et des recettes franco. En revanche, beaucoup de chefs ont refusé d'être dans le livre par mesure de précaution.
Alors, on a souvent une envie de gras, de plats réconfortants pour éponger. C'est le cas de certains chefs dans votre livre. Je pense à Grégory Marchand, qui est le chef du Frenchie à Paris, avec son muffin aux œufs et bacon qu'il dégustait à Londres parce qu'il était le second de Jamie Oliver. Il y a Laurent Favre aussi, Laurent Favre Mot à Dinan avec son croque-monsieur. Qu'est-ce que vous avez comme autre exemple comme ça pour justement se faire plaisir avec une belle recette régressive?
Alors, dans les recettes régressives, vous avez effectivement cité deux bons exemples. Il y a également le burger Pampa de Juan Arbelez. On a une sacrée collection de pâtes, mais on a remarqué qu'il y avait finalement plein de catégories différentes pour affronter la cuite et pas que les recettes très régressives.
C'est vrai que oui, que notre corps, il a besoin de glucides, hein, après Charlotte.
Oui, c'est ça. Notre corps a besoin de glucides, donc par exemple de pâtes, hein, tout simplement, et de potassium. La tomate séchée, par exemple, en contient pas mal. Et donc, celui qui a tout bon, qui coche toutes les cases, c'est Julien Duboué avec ses pâtes au ketchup basque. Vous avez aussi du potassium dans les haricots blancs, les haricots secs, les pistaches, les épinards.
Mais je suis d'accord, les pâtes au ketchup, c'est un vrai truc, ça, parce que faut être honnête, Victoire, quand on a une soirée un petit peu arrosée, on n'est pas non plus complètement dispo pour faire une recette avec beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'étapes. Et je trouve que la recette de Julien Duboué, elle est complètement honnête. Ça me rappelle des lendemains de fête à moi, où je faisais des pâtes au ketchup et je mettais un petit peu de crème en plus et du fromage râpé, j'avais l'impression de faire de la grande cuisine quand même, vous voyez, le lendemain. Donc c'est vrai que ces pâtes au ketchup, elles font du bien.
C'est exactement ça. D'ailleurs, beaucoup des recettes sont finalement des recettes de fond de placard où on se débrouille sans avoir très envie d'affronter le froid et d'aller faire des courses. On fait avec des restes et les chefs nous racontent ça avec beaucoup de franchise.
C'est ça qui est très bien dans ce livre, c'est qu'il y a plusieurs teams. Il y a la team réconfort qui veut de la junk food et des choses un peu pour se reconstituer. Et il y a aussi la team healthy qui veut des bouillons, des choses assez saines. Et puis il y a aussi ceux qui veulent un coup de piment là, pour avoir un autre starter là, pour se remettre un peu en selle. Quoi.
Une soupe feu, c'est bien vraiment relevée avec des épices.
Moi, mon best-of ou mon best post-cuite, c'est la soupe à l'oignon qui est quand même un des grands incontournables.
Mais c'est fait pour ça.
Traditionnel, c'est fait pour ça d'ailleurs. Ça a longtemps été paré de toutes les vertus pour vous remettre debout.
L'oignon, vitamine C dans l'oignon, le bouillon effectivement avec ses vertus.
Le fromage râpé et le pain évidemment pour venir tapisser un peu l'estomac, ça marche bien.
C'est vrai que les végétariens ne sont pas oubliés, hein. Charlotte le disait, Victoire, vous avez pas mal de recettes veggie aussi dans ce livre cuite.
Oui, il y a des bouillons aux aromates comme de Fanny Ray, chef étoilée qui était une ancienne Top Top Chef. On a beaucoup de plats avec des légumes ou des soupes, des minestrones, des soupes au pistou. Il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit salé, végé, sucré ou iodé.
Oui, le sucré aussi, c'est important. Voilà, il y a un bon carré de chocolat, c'est bien, mais il y a de belles recettes aussi.
Oui, il y a des smoothies. Le smoothie d'Angèle, de la guinguette d'Angèle, il est très bien. Il y a le gâteau aux pommes normandes de François Daubinet aussi, qui peut être très bien. Mais ce qui est bien, Victoire, c'est que dans cette façon de soigner le mal par le bon, c'est pas un hommage à l'excès, c'est un hommage à la fête aussi. Et dans cette année 2020, qui dans son ensemble est un peu un grand lendemain de fête difficile, ça réconforte, quoi.
Très belle conclusion. Charlotte, vous êtes d'accord, Victoire ?
Absolument, c'est un hommage au monde d'avant et bientôt au monde d'après.
Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Ça s'appelle Cuite, 60 recettes faciles pour lendemain difficile aux éditions Human. Bon entre deux réveillons, Victoire, et bonne journée.
Merci,
à Cannes.
À bientôt.
On continue
merci,
de parler de au ce revoir. Qu'on peut cuisiner et manger entre les fêtes juste après ça. On revient. Noël vient de passer, alors vous avez peut-être encore un peu de monde à la maison. Vous avez surtout des restes du réveillon, je suis sûr, dans les frigos. Alors comment cuisiner et manger entre les fêtes? On va commencer par accommoder les restes. Que reste-t-il dans vos frigos? Tiens Charlotte, qu'est-ce qui reste dans votre frigo?
Il reste un peu de dinde, il reste un petit peu de marron. C'est très classique.
Ah, c'est bien, mais c'est bien.
Mon frigo est d'un classicisme.
Mais c'est bien, ça rassure les classiques. Et vous, Olivier,
qu'est-ce qu'il reste? Rien. On a tout mangé. Jusqu'à la dernière huître, jusqu'à la dernière tranche de saumon fumé, il ne reste rien.
Bah moi, il reste un peu de foie gras et j'aime bien le mettre dans un velouté, par exemple. Et pour me donner bonne conscience, je le mets dans un velouté d'endive. L'endive, c'est bon pour le foie. Bon, bah le foie gras, justement, ça va lui plaire. Et bien, je mixe l'endive et le foie gras et ça fait un petit velouté qui marche bien.
L'association endive-foie gras est remarquable.
Et ben c'est vous qui m'avez fait découvrir ça avec vos endives au foie gras, effectivement.
Et jambon, ouais,
c'était délicieux.
De façon de revisiter, moi j'utilise le foie gras pour faire une petite sauce, en fait, le fond de foie gras qui reste. Je le mixe avec un petit peu de crème et un petit peu de bouillon de volaille. Mmh. Et alors ça fait une sauce délicieuse que vous pouvez utiliser avec votre reste de dinde, tiens.
Voilà, tiens, Charlotte. Alors pintade, poulet, poularde, c'est vrai que dans de nombreuses familles, il y a encore des restes de volaille au frigo. Une idée, tiens, pour recycler un reste de volaille, Olivier?
Ben, une espèce de salade César, parce que là aussi, on va se redonner un tout petit peu de bonne conscience en mangeant de la salade, une bonne romaine. On va faire une petite mayonnaise légère et puis on va couper tous nos morceaux de volaille, quelques croûtons de pain qui nous resteraient qu'on va faire frire dans une poêle et hop.
Et la mayonnaise, pour la légère, on peut mettre du fromage blanc, par exemple.
Est-ce qu'on ne peut pas faire un parmentier avec n'importe quel légume, un peu de purée, on met les restes
bien
de volaille et ça remplace...
Des croquettes aussi.
Voilà,
et des petits bouts de foie gras, si on en a.
Et voilà.
Je fais des samoussas, moi aussi, avec les restes de poularde et de farce. J'ai fait une farce, moi, au boudin blanc et au marron pour ma poularde. Et bien, dans ce cas-là, je mets ma chair de poularde émiettée avec ma farce que je mélange. Ouais. Et je mets ça dans des feuilles de briques que je passe vite dans un petit peu d'huile quand même bien chaude. Ça l'adore et ça fait un petit chausson comme ça.
Bah, plus light. Vous pouvez faire des empanadas. En fait, vous remplacez la feuille de brique par de la pâte feuilletée que vous dorez simplement avec un petit jaune d'œuf, hop, au four.
Et, oui.
Et vous avez des petites empanadas avec votre effiloché.
Sans matière grasse.
Sans matière grasse.
Sauf
pour le
beurre de la pâte feuilletée.
Oui, un petit peu à peine.
Gaulé. Le végétal est essentiel. Alors, pour être en accord avec la saison, les soupes, les légumes rôtis, les bouillons ont leur place à table en ce moment. Commençons par une belle idée de bouillon, Charlotte.
Alors, moi, je regarde toujours du côté de chez William Ledeuil quand il s'agit de bouillon. C'est vraiment.
le
maître en la matière.
Qui manie les saveurs asiatiques,
comme personne.
Citronnelle, gingembre, épices, vraiment.
Vraiment. Et par exemple, il a un bouillon de châtaigne avec une base de bouillon de légumes, mais il rajoute du curry, du lait de coco, de la citronnelle, du galanga, du lait d'amande et du miso. Mmh. C'est pas très long à faire finalement, et vraiment c'est à la fois assez gourmand avec la châtaigne et très bon pour la santé.
C'est un équilibriste du goût et des saveurs, oui. William Le Deuil. Les légumes rôtis, ça marche aussi, Olivier, par exemple au four.
Grande cocotte, moi je prends une grande cocotte. Je mets de l'huile d'olive, j'attrape tous les légumes que j'ai sous la main
qui traînent,
mais il y en a plein. Ça va du céleri au potimarron, on peut rajouter quelques châtaignes, des morceaux de panais évidemment. Mmh. Et je les fais bien revenir tout d'abord dans la matière grasse, je ferme la cocotte, éventuellement un petit peu de bouillon de volaille dans le fond, je laisse ça au four tranquille pendant 40-45 minutes. Et certains seront un peu plus cuits, d'autres un peu moins cuits. Il y aura un jeu de texture, c'est délicieux.
Et de nombreux auditeurs aussi ont des restes de champagne et de vin. Qu'est-ce qu'on en fait, tiens?
Et bien là, vous savez quoi? Vous mettez tout ensemble. Alors, le champagne, le vin rouge, le vin blanc un peu liquoreux. Et vous faites une espèce de petit bourguignon ou un petit coco vin.
Ah oui, pas mal.
Eh oui, parce que ça va s'équilibrer avec la petite note un peu sucrée d'un fond de sauterne. Et puis le tonus du champagne, vous les mettez tous ensemble et vous laissez cuire.
Moi, je fais un risotto avec le reste de vin rouge, ça marche bien aussi.
Ça teinte le riz.
Ah, ça teinte le riz en plus, ouais, exactement. Alors, on va finir sur une note sucrée. Tiens, c'est la saison des agrumes, des pommes, des poires. Une idée de dessert qui nous permette de bien tenir l'entre-deux-fêtes et en même temps de se faire du bien. Charlotte?
Après les bûches, moi je suis plus quelque chose de très simple avec des petites poires dans une casserole pour une petite compotée avec un peu de cannelle qui réchauffe le tout. Ça me suffit largement.
Ça, c'est un basique qui marche toujours.
Oui, moi ça me suffit largement.
Et pas mouliné en morceaux.
Donnez-nous, parce que j'adore ça, donnez-nous votre recette des clémentines givrées.
Ah, j'adore ça, les clémentines givrées. J'ai fait ça à la télévision il y a quelques temps, effectivement. Une belle clémentine corse. Je récupère la chair de ma clémentine, je la mixe avec du Grand Marnier, je mets ça au congélateur quelques heures, je gratte tout ça après, je le remets dans la coque de clémentine et ensuite on peut le manger aussitôt ou alors le conserver au congélateur.
Ah mais c'est hyper bon.
Et c'est très digeste effectivement. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec notre invité. Denis Brognard sera des nôtres. Alors des fruits de mer, des vins blancs et un questionnaire chaud bouillant. Voilà le programme. Le temps d'installer les poteaux. Bientôt midi, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Alors il a commencé sa carrière de journaliste en baladant son micro sur des cours de tennis, sur le gazon, entre deux pistes de rallye. 27 saisons de Koh-Lanta plus tard, il fait partie des animateurs préférés des Français. À la tête de District Z sur TF1, c'est un homme de défi. Celui de manger et bouger entre les fêtes ne lui fait pas peur. Denis Brognard est notre invité. Bonjour Denis.
Salut Laurent.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour, ça va bien?
Vous le bourguignon, vous le sportif. Vous faites du sport pour pouvoir manger ce que vous voulez, c'est ça?
Évidemment. Bah, justement, avant de venir, là, parce que je savais que c'était un moment plaisant, mais forcément compliqué.
Comment ça compliqué, vous plaisantez?
J'ai couru 1h15 dans ma bonne vallée de Chevreuse. Je me suis dit, il faut que j'arrive svelte. Non, mais c'est vrai que le sport, c'est un plaisir, c'est une passion, mais c'est aussi un défouloir et la manière que j'ai trouvé de vraiment garder la ligne tout en ayant toujours une vie d'épicurien.
Et de manger sans culpabiliser, du
exactement.
Coup. Hein, voilà, donc
exactement.
On peut sortir la blanquette, le pot-au-feu, le bourguignon, vous êtes prêts?
Eh bien, on y va. Voilà. On y va, feu, c'est parti.
Et on a un joli plateau de produits de la mer de Normandie pour vous tout à l'heure. Quel est votre goût de la semaine, cher Denis Brognard?
Alors, mon goût de la semaine, c'est la truffe.
Ah.
Parce que j'adore la truffe.
Mais pas la truffe de Bourgogne.
Non, pas la truffe de Bourgogne, la truffe d'un peu plus au sud. Mais moi, j'ai la chance d'avoir un de mes amis traiteurs, que
David,
vous connaissez, David Daven à Douai,
absolument.
Qui m'en a envoyé deux magnifiques. Voilà, et elles viennent effectivement du sud de la France. Et une candidate de Koh-Lanta, il n'y a pas très longtemps, Claire, a un papa qui va chercher la truffe avec un chien. Et j'espère avoir le temps d'y aller au mois de janvier parce que je suis invité pour...
C'est une expérience fantastique.
Voilà, exactement. Vénard, j'ai jamais fait ça, mais je pense que manger la truffe qu'on a trouvée, ça doit être encore meilleur.
Et puis quand elle sort du sol, elle a un parfum inimitable.
Ben oui. Et puis janvier, c'est la meilleure date en plus pour la manger.
Exactement.
C'est là qu'elles sont bien mûres et qu'elles arrivent à maturité.
Et moins chères encore.
Les restaurants sont fermés depuis mi-octobre, Denis. Ça vous manque, j'imagine?
Ça me manque et ça me peine pour tous les restaurateurs et notamment mes amis. Je pense à mon ami Stéphane Guido qui est patron de restaurant du côté de Beaune. Je pense à ceux que j'aime à Paris et que je vois essayer de travailler, essayer de faire de la vente à emporter, essayer de trouver tous les subterfuges pour continuer à bosser, pour garder leurs employés. C'est ça qui est le plus important.
Et garder le lien avec la clientèle.
Et ouais, c'est ça qui est terrible.
Vous cliquez et collectez, comme on dit.
Bien sûr. J'avoue que je suis un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que j'aime pas tellement manger dans des trucs en carton qui arrivent, donc je transvase. Mais effectivement, c'est terrible pour ces professions-là. Je dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire, encore une fois, de fermer ou d'ouvrir les restaurants. Je suis pas compétent pour ça. Mais que c'est dur et j'espère qu'il n'y aura pas trop de gens qui resteront sur le carreau et qu'ils puissent continuer à embaucher ceux qui sont autour d'eux pour qu'on puisse vivre dans ces restaurants le plus vite possible.
Eh bien, figurez-vous, Denis et chers auditeurs, que malgré le contexte, il y a tout de même des ouvertures dans le milieu de la restauration partout en France. Hein. Charlotte, c'est ce que vous allez nous raconter.
Exactement, Laurent, Denis, il y a quand même des petites lanternes qui brillent dans cet océan de devantures tristement closes. Il y a certains restaurateurs qui ouvrent de nouvelles enseignes actuellement. Ouais. Ce ne sont pas des nouveaux restaurants à part entière, évidemment, puisque c'est interdit, mais c'est des projets de bouche, on va dire, qui sont parfois décidés avant la crise sanitaire et qu'ils ont décidé de ne pas abandonner. Vous voulez que je vous emmène faire un petit tour des ouvertures en temps de fermeture ?
Ah oui, comme c'est bien.
J'adore. J'en profite juste une petite parenthèse parce que toujours le trait d'union avec Koh-Lanta, Ava, une candidate corse de la dernière saison, elle a ouvert un restaurant qui s'appelle Père et Fiche, c'est-à-dire c'est un restaurant de burgers de poisson où tout est naturel. Eh bien, elle est en train d'en ouvrir un second à Lille. Voilà. Et ça, c'est génial. Il faut encourager ça, même si c'est pour dans quelques semaines.
Combattante comme dans Koh-Lanta. On va commencer par le sucré à Paris. Il y a de belles ouvertures.
Exactement,
aussi.
Exactement, avec la toute première pâtisserie du chef Bertrand Grébaud qui ouvre ces jours-ci au 65 rue de Charonne. Elle est baptisée avec humour tapisserie. Vous savez, comme quand les enfants, ils inversent un peu les syllabes. Ici, on retrouve l'esprit décalé du restaurant Septime. Il n'y a pas de viennoiserie classique ni de pain, mais une offre autour du bon café, du goûter et du dessert à la française. Alors, c'est des gâteaux durables de saison, plutôt rustiques avec des farines bio locales, des sucres non raffinés, du beurre fermier. Et dans la vitrine, vous pouvez vous offrir des religieuses au foin, du cognaman, des tartes bourdaloues ou des millefeuilles minutes.
Je prends le cognaman tout de suite.
Ça, c'est bon, ça. On passe au salé. Tiens, direction la belle ville de Lyon. Il y a de belles choses là-bas.
Lyon, où l'on est plus fort à deux pour traverser la crise. Le chef du bouchon, la meunière, et celui du bistrot du potager se sont associés pour ouvrir leur épicerie commune. C'est au menu, vous avez des beaucoup de foie gras, maison, du vin, de la bière, des plats cuisinés à partager. Il rouvre le 4 janvier, soyez là. Et puis, on va faire un tour du côté de l'ami David Radjébert, qui a ouvert à Paris son arrière-cuisine, attenante à son restaurant L'Assiette, dans le 14e. Il envoie une carte à emporter, courte, mais alors efficace.
On le connaît, le gaillard, oui.
Burger du Bougna, galette saucisse, crème caramel, vin, bière artisanale.
Que du rassurant. Hein.
Exactement.
Vous voyez pourquoi il faut continuer à faire du sport.
Bien sûr.
Vous remettrez 3 tours de terrain.
Vous avez 15 secondes pour nous parler de deux jeunes chefs que vous avez repérés aussi, Charlotte.
Trois même, des amis qui lancent à Marseille leur Catherine sans H. C'est un concept qui reprend les codes de la cantine avec la qualité d'un vrai restaurant. Alors, il n'y aura pas de personnel de salle pour inciter le client à passer commande directement au chef et renouer le lien avec eux. En attendant l'ouverture, le 5 janvier, elles ouvrent avec une street food à emporter locale de saison à 9 euros maximum à base de cromeski de bouillabaisse ou de kebab de poulpe. Leur local est une ancienne boutique de cierges. Que la force soit avec elle.
Eh bien, absolument. Denis, dans Koh-Lanta, il y a une épreuve de dégustation. Ouais. Hein, je ne me trompe pas. Eh bien, ne bougez pas parce que nous aussi, on a la nôtre. Ça s'appelle le plat du jour. Et on a des petites merveilles qui arrivent du côté de la Normandie. Il y a de jolies crevettes.
Je suis sûr que ce sera moins difficile à déguster que sur Koh-Lanta.
Je pense, mais on vous a réservé une surprise tout de même. A tout de suite, ce sera juste après les titres du journal de Fabienne Lemoyle.
Europe 1. 11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Merci d'écouter la table des bons vivants, chers amis. Vous êtes fidèles et ça nous fait plaisir. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Nous en avons croqué pour les œufs de poisson et nous avons fait le tour des recettes de lendemain de fête et d'entre-deux fêtes. Vous retrouverez tout ça dans le podcast sur Europe 1. Et nous revoilà avec notre invité, Denis Brognard.
Pourquoi vous riez,
Denis? Ben oui, dites-nous tout.
Ben moi, parce que vous venez de me mettre devant les yeux, là. Des choses que j'adore, ça sent d'ailleurs divinement bon, avec des noix de Saint-Jacques, mais avec des choses que j'aime pas.
Ben oui, mais on va voir ça plus tard, vous inquiétez pas. On a un beau saumon de Cherbourg, on a des belles crevettes de Chauzet. On va vous expliquer tout ça tout à l'heure. Et mais c'est vrai que les produits de la mer, les fruits de mer, il n'y a rien de tel pour se remettre, comme on dit, à niveau entre deux fêtes. Et puis c'est du zinc, du potassium, du magnésium.
Ça tombe bien, je pars à Belle-Île.
C'est vrai ?
Mais oui.
Vous enchaînez les îles.
Ben ouais, mais j'ai envie, voilà. Mais là, vous avez, j'ai envie des embruns, j'ai envie du vent, j'ai envie des grosses vagues, loin
de la nature,
Polynésie.
Minéral.
Exactement. Mes enfants sont moins fans,
oui,
et
c'est...
moi, oui.
Mais ils vont adorer une fois qu'ils seront là-bas.
J'espère.
27 Koh-Lanta, 13 pays. Si j'avais une baguette magique, sur quelle île vous aimeriez être là maintenant, justement, Denis Brognard ?
Ah, j'hésiterais entre une île du côté de Raja Ampat, ça veut dire les Quatre Rois. C'est en Indonésie, à la frontière de la Papouasie, avec des fonds marins exceptionnels. Et puis la Polynésie. J'en reviens, je ne connaissais pas, mais la Polynésie, y aller, l'essayer, c'est l'adopter.
J'en rêve, moi.
Ah ben, il faut y aller. Je vous invite vraiment à y aller. Il y a Tahiti. Bon, vous y restez un petit peu, mais il y a d'autres îles. Moi, je suis à la Moréa, et puis surtout, on a tourné du côté des îles sous le vent. Raiatea, Taha, c'est à une heure de bateau de Bora Bora.
Ça fait rêver.
Rien que les noms,
c'est sublime. L'accueil est extraordinaire. La nourriture. On parlait de produits de la mer. Je n'ai jamais mangé du thon comme ça.
Vous avez le temps de goûter aux spécialités locales quand vous êtes en tournage.
J'essaye au maximum.
Comme ça,
ouais. Mais ce thon, mais c'est interdit même de le faire cuire. Tellement il est divin, mais complètement divin. Ces poissons crus, non, vraiment fabuleux.
Alors, je vous parlais de notre plat du jour. Eh bien, il est arrivé, effectivement, on l'a dissocié entre nous tous. On respecte, bien entendu, le protocole sanitaire. On fait très attention à tout. Alors, on a devant nous des huîtres de Normandie, des crevettes de Chauzet, des bulots de Granville, des noix de Saint-Jacques de Normandie aussi. Ça, c'est le travail de Maxime Jourdan et Pierre Hureau, qui sont deux garçons du pays. Ils sont écaillés et traiteurs.
Ouais.
On peut dire que ce sont de vrais ambassadeurs des produits de la Manche. Leur boutique s'appelle les Yodés. Et on voulait soutenir les traiteurs aussi. Vous parlez de David tout à l'heure, d'Aven, qui est à Roubaix.
À Douai.
Il y a de nombreux traiteurs partout en France qui nous écoutent. Donc voilà, on les soutient et on sait que les Français aussi ont fait beaucoup d'achats chez les traiteurs pour le réveillon du 25.
Et c'est important justement de parler de ces traiteurs parce qu'ils sont aussi aujourd'hui la solution de remplacement aux restaurateurs qui sont fermés. Et ils proposent des plats cuisinés et ils proposent finalement de vous amener aussi à la maison les plats qu'on peut trouver au restaurant.
Alors on a un joli saumon de Cherbourg parce qu'on élève du saumon dans la rade de Cherbourg, figurez-vous. Vous aimez le poisson, vous
J'adore.
Nous avez dit. On l'a servi tel quel. Alors là, celui-ci, il est fumé. C'est
oui,
un saumon fumé, bien épais.
Il est magnifique parce qu'il n'est pas trop gras. Et le problème de beaucoup de saumons fumés d'élevage, ceux qui sont gras, un peu mollassons, et puis ils ont un goût de fumée trop prononcé. Là, il y a un équilibre. La texture est ferme.
Incroyable.
Et le fumé est vraiment délicat.
Vous savez pourquoi il n'est pas trop gras ? Parce que dans la rade de Cherbourg, il y a beaucoup de courant et le saumon lutte, justement.
Il fait comme Denis Brognard, il fait du sport.
Il fait du sport. Non, mais moi, ce que j'aime en plus sur le saumon fumé, c'est le saumon fumé épais. Comme ça, là,
c'est
il fait un centimètre d'épaisseur. On a quelque chose.
Comme un gravlax.
Voilà, exactement, comme un gravlax. C'est bon, il y en a dans la bouche. Moi, j'adore.
Et ces petits bulots, là, pas trop gros, d'une texture parfaite.
Ça tombe bien, je vais vous donner les miens.
Il n'aime pas les bulots, Denis Brognard.
Mais non, j'aime pas les bulots.
Mais essayez, ils sont parfaits.
Mais
avec
ça,
cette mayonnaise, là,
poivrée. Ça, vous aimez, on va pas le forcer. Mais on va le forcer tout à l'heure à goûter un truc, quand même. Ça, vous aimez, ça, les crevettes?
Ah, j'adore.
Les crevettes françaises, elles ne viennent pas de Madagascar ou de je ne sais où.
Non,
c'est de la crevette de l'île de Chauzet. C'est ce qu'on appelle la crevette bouquet. Elles sont petites. Et je vais vous dire un truc, moi, quand j'ai enlevé la tête, même je la mange avec la
carapace.
C'est d'une douceur, c'est sucré.
Non mais ça, c'est divin.
C'est très bon, hein. Voilà.
Et c'est marrant parce que quand je les ai vus, ça a la taille d'une crevette grise, mais c'est effectivement la couleur et d'un bouquet.
Et rose.
Mais qu'est-ce que c'est bon.
On a choisi ce plateau normand pour faire un petit clin d'œil à vos débuts en Normandie, Denis Brognard.
Exactement.
Hein, parce que vous avez commencé à être journaliste radio sur une radio locale là-bas.
Ouais.
Et vous étiez à Caen.
Exactement, à Caen, c'est un bel endroit. Et j'habitais au bord de la mer. J'habitais à l'époque à Courseul, donc... Je pratiquais beaucoup d'activités nautiques, notamment la planche à voile.
Attendez, mais vous n'avez jamais mangé d'huîtres en habitant en Normandie? Vous avez dû vous retrouver à des
Je vais
dîners,
vous raconter une anecdote qui est terrible. J'étais moniteur de colonies de vacances au début de ma vie professionnelle, l'été. J'étais maître nageur et je me souviens qu'on allait du côté de Port des Barques, à côté de Rochefort, au sud de La Rochelle. Et là, j'avais une directrice qui était une directrice aussi d'école dans l'année et qui se faisait un point d'honneur à inciter, plus qu'inciter même les enfants à manger une fois pendant la colonie de vacances, des huîtres. Sauf que nous, on partageait les tables avec les enfants et qu'on ne pouvait pas ne pas manger d'huîtres et demander aux enfants de manger des huîtres.
Bien sûr.
Mais pour moi, c'était impossible, ça ne passait pas. Et j'avoue que je me faisais une espèce de nœud et au cerveau et aux intestins pour avaler ça tout rond.
Faut croquer, malheureux, faut pas avaler.
Mais ouais, mais voilà, je vais essayer là.
C'est vrai ?
Mais ouais, mais oui, je vais essayer, ça fait tellement longtemps.
Non, mais vous qui faites subir à Koh-Lanta les pires trucs.
Mais j'ai tout essayé. J'ai essayé les verres blancs, j'ai tout essayé.
Vous n'allez quand même pas bloquer devant une
vitre. Non, mais je vais pas bloquer. Mais c'est vrai que je n'aime pas. Et si j'ai.
On met la musique. Jean-Luc Arblan nous met la musique. Séquence dégustation, c'est une épreuve. Il mange une vitre. Croquez, malheureux.
Ouais, mais c'est pas mauvais.
C'est vrai que c'est bon.
Mais c'est vrai que c'est pas mauvais.
Bon, il a le totem de l'immunité.
Il y
en a même deux couchés. Je vais même manger la deuxième partie.
Il y retourne, le gaillard.
On parlait de la truffe tout à l'heure. J'en mangerai sur la tête d'un pouilleux, comme on dit chez moi. En revanche, voilà. Je mange une huître, c'est pas mauvais, mais franchement, j'en mangerai pas une douzaine.
Et alors les verres blancs ?
Les verres blancs, ça a le goût de noix de coco parce que ça vit sur les cocotiers. Ah bah mais la prochaine fois, je ferai l'inverse.
Il vient de goûter une huître pour la première fois, ça s'est passé sur Europe 1. Ne bougez pas, on revient dans un instant, il va découvrir le bulot. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Nous revoilà, bonne cuisine, hein, si vous êtes en train de la faire. Nous sommes là pour festoyer entre deux fêtes avec Denis Prognard, qui est un aventurier. Il nous l'a prouvé en mangeant une huître. Et là, il retourne à la coquille Saint-Jacques de Normandie.
Ah ben là, c'est vraiment l'un de mes plats préférés, quelle que soit la façon dont on les cuisine. Hein, en carpaccio, avec une petite truffe dessus et une huile d'olive, mais... C'est rien délicieux. Que de vous en parler, j'ai les papilles en émoi.
Juste nature comme celle-ci, elles ont été snackées 30 secondes par côté. Il ne faut pas une cuisson longue pour la Saint-Jacques, il faut une cuisson courte pour qu'elle reste nacrée à l'intérieur, effectivement. Et c'est délicieux parce qu'il y a cette douceur et cette petite note de noisette de la Saint-Jacques qui plaît à tout le monde, pour le coup, même à ceux qui n'aiment pas les huîtres. Hein,
c'est clair. Non, mais franchement, la coquille Saint-Jacques, c'est quelque chose de magnifique et j'en achète très régulièrement et je les achète dans les coquilles.
Bien sûr, il faut les acheter vivantes.
Voilà, absolument. Vivantes, je les ouvre. Alors, je sais pas, là, il y a peut-être aussi débat. Moi, je ne mange pas le corail.
Moi non plus.
Oui, moi non plus. J'en suis pas dingue parce que c'est farineux, le corail.
Exactement, je trouve que ça n'a pas d'intérêt.
Mais pour une sauce, faire une bisque, c'est très bien. Ouais.
Alors, vous le récupérez, vous le mixez à cru avec un tout petit peu de crème, sel, poivre, et vous tartinez ça à l'apéro, c'est pas mal.
Alors, on va changer de régime, les amis. Maintenant, on va parler vin avec vous. Vous êtes bourguignon.
Et fier de l'être.
Et fier de l'être, comme on dit.
On fait un petit bon bourguignon.
Un petit bon bourguignon. On y va. La, 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 la,
la, la, la, la, la, la. La 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 la. La, ah, la pas mal quand même.
Bon, c'est bien, vous êtes
monsieur,
au point.
Bravo.
Bah oui, le bon bourguignon, c'est une institution lorsque l'on déguste des mets et lorsque l'on surtout on déguste de très bons breuvages.
Vous êtes d'où en Bourgogne ?
Je suis de Givry. L'appellation la plus célèbre du coin, c'est Mercuré, mais il y a Buxy et il y a Givry. Vous connaissez le slogan
Ruy
de la
aussi, qui est
Ruy,
juste à côté.
Exactement. Vous connaissez le slogan des vins de Givry ? Ce sont les vins préférés d'Henri IV.
Ah. Oui. Voilà. Avec une petite poule au pot, ça passe toujours, ça.
Exactement.
Et avec notre petit plateau de fruits de mer, je vous ai servi un vin qui est juste à côté, qui est un Mâcon Lugny.
Il est très très bon.
Voilà, cœur de charme. Et c'est un petit clin d'œil à des gens dont on ne parle pas beaucoup, ce sont les caves coopératives.
Oui,
c'est la cave coopérative de Lugny. Eh bien, ce vin est absolument délicieux.
Il tient la route, absolument.
Il a un nez minéral, mais à souhait. Il est de quelle année ?
2015.
Eh bien, il est vraiment très très bon et ça se marie parfaitement bien avec les coquilles.
Vous en apportez avec vous sur les tournages de Koh-Lanta des vins, des petites notes de Bourgogne comme
Alors,
ça ?
J'en apporte pas ou très peu, mais en revanche on arrive à en trouver. Là en Polynésie, on a bu des petits Chablis premier cru, on a eu aussi un petit Vaune Romanée et ce qui était très drôle, parce que là on est en France, donc voilà, on arrivait à s'approvisionner, c'est la France quand même si c'est très loin qu'il faut amener tout ça dans de bonnes conditions, parce que c'est ça le problème quand vous achetez des vins dans ces zones-là.
La conservation.
Si la conservation se fait dans des conteneurs à 40 degrés, vous foutez en l'air même n'importe quel bon vin. En revanche, au Fidji, quand on y a passé quelques années, il y avait un tout petit gars qui avait une petite échoppe à Nadi, la capitale administrative de cet archipel d'îles. Et là, il avait des vins de dingue. Et c'est vrai que mon producteur, sachant que j'adore le vin, de temps en temps, me faisait parvenir. Et je me souviens, avec ma femme qui était venue me rejoindre, d'un pique-nique un peu high level que nous avions partagé sur une plage totalement désertique. Imaginez la mer transparente, la plage de sable blanc.
Il nous fait rêver. Hein.
Avec un morceau de chez Girardin.
On y est. Ouais, on voyage avec vous depuis midi, c'est un bonheur. Parce que comme on ne peut pas voyager, voilà,
non,
on voyage par
ce morceau de chez Girardin, je peux vous dire que là, ça en a fait pleurer plus d'un.
Eh bien, alors, quitte la Bourgogne, Denis Brognard, pour d'autres régions à blanc avec vous, Olivier. Sec, demi-sec, moelleux, liquoreux, les vins blancs peuvent avoir plusieurs visages. Hein. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc, on va suivre le guide. C'est vous, Olivier.
Ben, c'est vrai que contrairement au vin rouge, qui à 99,9% des cas est sec, c'est-à-dire sans aucun sucre, les vins blancs peuvent en contenir plus ou moins. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de comprendre. La meilleure illustration, c'est l'Alsace, par exemple, où vous avez des vins un petit peu complètement secs, un petit peu sucrés, voire très sucrés. Bon, c'est les
Gewürztraminer vendanges tardives, par exemple.
Les vendanges tardives, les sélections de Grenoble, etc. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile.
Alors, comment on fait pour s'y retrouver?
Ben, tout d'abord, il faut comprendre, en 15 secondes, je vous explique comment ça se passe pour le processus du vin blanc. On fait fermenter du jus de raisin, et c'est la transformation du sucre en alcool qui fait passer du stade de jus de raisin à vin. Il faut 18 grammes de sucre pour faire un degré d'alcool. Mais parfois, vous avez des raisins qui sont extrêmement sucrés et la totalité du sucre ne fermente pas. Vous avez donc ce qu'on appelle des sucres résiduels qui sont recherchés ou pas forcément d'ailleurs, puisque parfois, on ne va pas au bout de la fermentation.
Donc c'est volontaire de la part des vignerons, ça?
Alors, ça peut, et c'est souvent le cas, c'est volontaire de la part des vignerons. On a l'exemple de la Bourgogne. En Bourgogne, pratiquement tous les vins blancs sont secs, c'est-à-dire qu'on va au bout de la fermentation. Mais quand vous ramassez des raisins plus tard, comme c'est le cas en Alsace, les vendanges tardives ou les sélections Grenoble, et qui sont parfois vendangées jusqu'au mois de novembre, vous avez des niveaux de sucre qui sont extrêmement élevés. Donc une partie seulement va fermenter et il va rester du sucre en état de sucre de manière assez conséquente, jusqu'à parfois plus de 100 grammes.
Comment on peut le savoir, c'est en regardant l'étiquette?
Alors évidemment, c'est pas très facile. Il y a des appellations qui le disent clairement. Vous achetez du Sauternes, vous le savez. Vous achetez des sélections Grenoble, vous le savez. Du Montbazillac, vous le savez, etc. Mais en Alsace, où là aussi c'est compliqué, ils ont mis en place des échelles à l'arrière des étiquettes. Vous trouvez voilà, la tendance vin sec, demi-sec, et vous pouvez vous orienter.
On peut s'y retrouver un peu.
Avec cette échelle. Sinon, c'est vrai que c'est parfois un tout petit peu la loterie.
Eh bien, merci, Olivier.
Et j'en profite parce que l'Alsace, moi aussi, j'adore cette région. J'ai eu la chance d'y vivre quand j'étais gamin. Et ce n'est pas à vous, Laurent, que je vais apprendre ce qu'est l'Alsace. Mais allez, un petit peu de pub, parce qu'il faut aussi les petits producteurs, les petits vignerons. Jean-Luc Fredenreich, est un type que j'aime beaucoup, qui fait notamment une cuvée Barbara du Gewürz Vendange Tardive, qui est absolument divin, mais du Riesling, du Pinot Noir, etc.
Et à propos de l'Alsace, à votre place la semaine prochaine pour débuter l'année, nous serons avec Christophe Helder, un de nos plus grands pâtissiers, qui viendra avec sa galette. Allez, ne bougez pas, on revient dans un instant avec le questionnaire des bons vivants. Denis, vous allez passer sur le grill des bons vivants. Et là, je peux vous dire une chose, pas de totem d'immunité,
c'est
mon
vrai.
Gaillard.
Hein. Mais je veux rester juste...
Snacker, aller-retour, comme la coquille Saint-Jacques. A tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Dernière partie de la table des bons vivants. Ça passe vite hein, quand on est en bonne compagnie. Le journal de midi et demi, c'est pas tout de suite, mais pour l'instant, c'est notre invité, c'est Denis Brognard. Denis, vous cuisinez au quotidien?
Alors, au quotidien, si je vous dis oui, ma femme va me tirer les cheveux en me disant « t'es un menteur ». Non, je ne cuisine pas au quotidien, mais j'aime le faire de temps en temps. Un petit risotto. J'adore le risotto, ou alors un plat que j'ai appris avec l'un des cuisiniers de TF1. C'est un filet de poisson, un filet de Saint-Pierre à la croûte de parmesan. Avec entre la croûte de parmesan et le Saint-Pierre, des petits champignons bien rissolés et puis une espèce de petite crème de tomate.
Vous le faites à quoi votre risotto?
Alors, aux asperges, j'aime bien le faire aux asperges ou aux champignons.
Alors même champignons de Paris, on le disait là tout à l'heure, avec un reste de vin rouge là, on est le lendemain de Noël, effectivement, il reste un peu de champagne, même avec du champagne.
Alors, j'ai jamais fait le risotto avec du vin rouge, avec du vin blanc.
Ça va lui donner un petit côté, non mais pour le teinter même, on le met à la place du bouillon pratiquement, on met autant de vin rouge que de bouillon là je parle.
D'accord.
C'est pas pour le démarrer.
C'est une bonne nouvelle. Non mais j'aime bien, ensuite c'est un peu long.
Vous m'avez appelé une fois en plein risotto, je me souviens.
Exactement.
Vous ne savez plus quand il fallait s'arrêter.
C'est mon conseiller.
Coaching direct.
Pour Mantecare.
Mantecare, exactement.
Le moment où la liaison s'opère.
Et puis on met du beurre et du parmesan à la fin. Vous voyagez à l'étranger, on en a parlé, Denis, mais aussi en France. Quelle cuisine régionale vous fait vibrer, en fait, chez nous?
Et la cuisine bourguignonne, évidemment. Non, mais j'aime aussi l'Alsace, par exemple. Je ne rechigne jamais devant une très bonne choucroute. J'aime toutes les régions de fromage aussi, parce que j'adore ça. J'ai fait mes études, une partie de mes études en Normandie, donc un colonel, un bon Livaro, un bon Neuchâtel, c'est magnifique. Mais bon.
Le Pays Basque aussi, vous avez découvert le Pays Basque il n'y a pas très longtemps.
Très très chouette, le Pays Basque. On avait d'ailleurs partagé un délicieux dîner. Et j'aime effectivement la charcuterie, j'aime toutes ces... on avait découvert le piment, moi je ne connaissais pas
le
piment d'Espelette, que je connaissais à peine.
L'or rouge du pays.
Voilà, non mais... j'aime en tout cas, à chaque fois que je vais dans une région, même une région que je ne connais pas, la découvrir par l'intermédiaire aussi de la cuisine.
C'est comme ça qu'on découvre vraiment un pays et une région, c'est sûr. Alors, chers amis, vous le voyez faire des choses un petit peu parfois difficiles à des candidats dans Koh-Lanta. Il y a des épreuves, il y a les poteaux, mais il n'y a pas que ça. Eh bien, à son tour de souffrir un petit peu, il va passer sur le grill des bons vivants, Denis Brognard. Mais en général, tout le monde s'en sort.
Bon, ça devrait aller, allez.
Quel est le goût de votre enfance, Denis ?
Le chocolat. J'adore le chocolat. Le chocolat au lait en particulier. Ma grand-mère, à chaque fois qu'on allait la voir dans le nord de la France, du côté de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, elle me donnait, allez, on peut faire un peu de pub, hein, du Côte d'Or. Mmh. J'adorais le chocolat Côte d'Or, c'est un chocolat belge. J'en avais dans ma chambre, mais je le mangeais très vite. Et ma mère avait quelques réserves. Et j'allais les piquer, et je me faisais engueuler, parce qu'en plus, je suis allergique au chocolat. Mais une allergie toute relative,
tolérable.
Puisque j'éternue quand je mange du chocolat ou de la menthe. Donc imaginez quand je mange des after-eight. Voilà, donc quand je mangeais du chocolat dans ma chambre, je me faisais gauler parce que j'éternuais.
Quel est le premier plat que vous avez cuisiné ?
Des crêpes. Ça, c'était quand j'étais enfant. On aimait faire la pâte à crêpes. On aimait surtout les manger. Donc on les faisait. Mais je me faisais engueuler parce que ma mère est très attachée à ce que la cuisine soit en ordre et on en foutait partout.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable ?
C'est ce plat magique, ce pique-nique incroyable au Fidji avec ma femme. Comme en lévitation, on avait du poisson cru, on avait de la langouste, on avait des choses absolument incroyables. Et puis deux bonnes bouteilles de vin, du Meursault de chez Girardin. Et puis j'avais amené un petit givry du côté de chez mon fournisseur principal, Rago. C'était très très bon, délicieux.
Votre pire repas, Denis Brognard ?
Ah, m'en parlez pas, ça me donne des boutons. Je vous ai parlé des huîtres, mais là, j'étais pas obligé. Mais c'était les choux de Bruxelles ou les salsifis que faisait ma mère. Je n'en ai jamais mangé depuis. Je déteste ça. Et vous voyez, là, en Polynésie, de temps en temps, on nous mettait en garniture des choux de Bruxelles. Mais j'avais dit tout de suite, c'est oubliez ça.
On partage un peu cette aversion.
Je déteste, mais c'est vraiment le truc...
Revenu dans du beurre, coupé en deux avec un petit peu d'eau, cuit à l'étuvée une dizaine de minutes. Essayez, vous m'en direz des nouvelles, c'est délicieux.
Vous allez croire que mes parents étaient des tortionnaires, pas vraiment, mais on mangeait dans une espèce de salle à manger et il y avait la cuisine. Et quand je ne mangeais pas ces foutus choux de Bruxelles ou salsifis, ça repartait tranquillement au frigo, c'était réchauffé le soir même et je les mangeais dans la cuisine, seul sur une petite table rouge, je m'en souviens comme si c'était hier. Et j'étais obligé au bout d'un moment, parce qu'autrement je ne pouvais pas manger la suite.
Vous qui les fréquentez, quel plan mèneriez-vous sur une île déserte ?
Qu'est-ce que j'emmènerais sur une île déserte ?
Vous devez savoir, vous avez le temps d'y réfléchir depuis.
J'emmènerais ce que je peux trouver sur place, c'est-à-dire du poisson cru, et j'essaierai de me faire des petits sashimi de poisson cru, tout poisson.
Pas, juste un couteau bien aiguisé, vous allez le trouver sur place,
exactement,
le poisson cru. Hein.
Exactement.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Denis ?
Ma famille. Mes enfants, ma maman, mes frangins, qui sont aussi des épicuriens, et puis quelques amis triés sur le volet, mais j'aime pas du tout galvauder l'expression « ami ». Il y a plein de gens aujourd'hui qui disent qu'ils ont des tonnes d'amis, voilà. Des vrais amis, et surtout des gens, parce que j'ai des amis qui sont pas forcément très attachés à la bonne bouffe. Donc, partager un repas avec des gens vraiment qui aiment ça. Mais d'abord, et en premier lieu, la famille.
Pour qui ce sera un plaisir. Votre adresse secrète, Denis Brognard ?
Mon adresse secrète, j'aime bien aller à Paris, le 6 New York de Jérôme Gagneux. Très très bon. Lui aussi, il fait de la vente à emporter en ce moment. On est reçu là-bas par un grand chef, mais qui nous accueille comme si on était dans un tout petit bistrot. C'est génial. Les tablettes, Jean-Louis Nemico aussi, que j'aime beaucoup. Et puis le 21 de mon ami Stéphane Guido à Beaune aussi. Voilà, ce sont des endroits où j'aime me retrouver, où il y a ce qu'il faut dans l'assiette et ce qu'il faut autour. Une vraie chaleur dans l'accueil.
Vous avez vu, il n'est pas que quand il est question de passer des épreuves qu'il est intéressable. À table aussi. Et le mot de la fin, FIM, Denis Brognard.
Eh ben, le mot de la fin, c'est dégustation, comme ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était magnifique.
Quel bonheur. Eh ben, merci d'avoir été avec nous.
Merci
entre
à vous
ces
trois.
Deux fêtes.
Merci.
Ninja Warrior, bientôt sur TF1.
Et oui, à partir du 2 janvier, samedi soir, il va y avoir des épreuves aussi. Là, il faut manger léger avant et puis manger pour fêter éventuellement un succès dans Ninja Warrior. Après.
Et District Z aussi, hein, c'était hier soir, ça revient vendredi prochain. Et ce soir, on vous retrouve dans la grande incruste de Camille Combal. C'est vraiment une émission à regarder, ça, la grande incruste.
Mais je joue mon rôle. Je joue mon rôle parce qu'on fait une parodie de Koh-Lanta. Je vous en dis pas plus. Il y aura Camille Combal, un invité, et puis le dénommé Claude, aventurier légendaire de Koh-Lanta.
Pareil, il y a une parodie de Petit Plan d'équilibre. Vous allez voir, c'est une très belle émission avec Camille Combal. Merci Denis Brognard.
Je vous embrasse,
d'être venu.
C'était très agréable.
Ninja Warrior, District Z. Merci Charlotte Langrand.
Merci Laurent, bonne
merci
fin d'année à
tous. Merci Olivier Pouls.
Bonne fin d'année. Finissez bien les amis.
Merci à toute la bande de m'avoir aidé à
préparer
cette
bonne
émission.
Bonne année avec quelques jours d'avance en espérant que 2021 soit bien mieux que 2020.
Absolument, on la laisse derrière 2020. On se retrouve la semaine prochaine, l'année prochaine avec Christophe Helder. D'ici là, bon week-end. Faites le marché, la cuisine. Et dans un instant, c'est Europe Midi avec Fabienne Lemoyle. Et vous retrouverez évidemment l'émission podcast sur Europe 1.fr. C'est Fabienne dans un instant. Et bonne cuisine d'entre deux fêtes, les amis.